Donc voilà, nous allons donc commencer la troisième session de cette semaine de réflexion et de débat consacré aux lectures que nous, je veux dire les sciences sociales, consacrons à ce que nous ne savons pas trop comment nommer, les événements de banlieue, les émeutes de banlieue ou la crise des banlieues, et aux propositions que, face à cette crise, nous nous sentons en mesure de faire ou dans l'obligation de formuler quant à notre pratique des sciences sociales ou quant à notre métier de citoyen dans une société démocratique. Alors, il me semble qu'il était impossible de ne pas consacrer une séance à la question du modèle républicain. Le langage, les notions, les concepts que nous entendons de plus en plus depuis ces derniers mois nous invitent fortement à nous y consacrer. Il y a par exemple un concept clé, un peu oublié, un peu passé de mode, en tout cas relégué au second plan du discours républicain, que nous voyons revenir avec force. Ce concept d'égalité, aujourd'hui escorté de plus en plus par un qualificatif, égalité des chances, notion qui, pour ceux d'entre nous qui sont historiens, nous ramène un peu aux origines du discours républicain, à l'époque où, il y a 130 ans, l'un des pères de la République, Léon Gambetta, s'écriait « La vraie démocratie, messieurs, ne consiste pas à proclamer des égaux, mais à faire des égaux ». D'un autre côté, il est clair aussi que certaines notions taboues dans notre discours et dans notre culture, des notions telles que celles de discrimination, et à plus forte raison, celles de discrimination positive, deviennent des notions auxquelles nous recourons quotidiennement aujourd'hui, toutes choses donc qui nous conduisent à nous interroger sur le modèle républicain. Alors je ne vais pas commencer à essayer ici de dire ce qu'est le modèle républicain, nous en aurions pour toute la nuit, mais disons que nous y avons entendu, quand je dis nous praticiens des sciences sociales, je dis nous également citoyens de cette société, nous y avons entendu ce système discursif, conceptuel et politique dans lequel République, nation et démocratie étaient en quelque sorte équivalentes. Nation et démocratie étant définies comme une communauté d'individus citoyens dont l'intégration à l'ensemble national, démocratique, intégration sans cesse renouvelée, sans cesse remise en cause, réactualisée, était à la fois politique par l'exercice des droits liés à la citoyenneté, sociale par les ressources et les possibilités à la circulation, à la mobilité, à la promotion, à l'ascension que la République ouvrait précisément aux individus, et culturelle par l'adhésion volontaire et le partage d'une culture diffusée précisément par l'école de la République. Alors, naturellement, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a un avant la crise des banlieues et un après à la crise des banlieues, mais il est clair tout de même qu'avant cet avant, le modèle républicain n'allait pas sans problème. On pouvait se demander en effet si elle ne correspondait pas plutôt à une représentation de la vie sociale, à un imaginaire politique collectif, à un discours idéologique, plutôt que à des pratiques concrètes éprouvées dans la quotidienneté des citoyens. On pouvait se demander aussi, dans la mesure où la République a très largement débordé de ses frontières et où la grandeur nationale liée au modèle républicain, cette grandeur nationale s'accompagnait de la gestion d'un espace, l'espace impérial, dans lequel la République s'accommodait, quand elle ne les encourageait pas, de discours, de dispositions juridiques, de pratiques administratives et autres qui étaient en tout point contraire à son idéal et à ses discours. Donc la crise des banlieues, et je dirais que je préfère peut-être la notion de crise à celle d'événements, la crise, les émeutes de banlieue, sont évidemment une occasion pour interpeller et interroger cette notion de consensus républicain. Est-ce que cette consensus a été, a volé en éclats devant la crise des banlieues, ou est-ce qu'elle n'avait pas déjà volé en éclats, la crise des banlieues étant là simplement pour dévoiler ce que l'on constatait déjà, soit l'inadéquation entre le discours, l'imaginaire, l'idéologie d'un côté et les pratiques de l'autre, soit au contraire le fait que ce consensus ayant existé à un moment donné a cessé d'être à un autre moment, quand et pour quelles raisons. Et d'autre part, on peut se demander aussi si le moment n'est pas venu de remettre sur le métier ce consensus républicain pour, lui ajouter des concepts nouveaux, concepts qui ont pu choquer certains d'entre nous, comme par exemple, justement, ce concept de discrimination positive. Donc nous avons à cette table deux collègues qui vont introduire le débat, chacun parlant une demi-heure. Donc, à ma gauche, c'est tout à fait par hasard, Didier Fassin, qui est professeur à l'Université de Paris 13 et directeur d'études à l'école. Didier Fassin dirige le Centre de recherche sur la santé, le social et le politique, est une unité de recherche de l'INSERM, et il coordonne également le programme de recherche « Les nouvelles frontières de la société française, les discriminations raciales entre reconnaissance et déni ». Alors Didier a une pratique de terrain qui est multiple, et ces terrains probablement se répondent et peuvent nous suggérer des comparaisons utiles. L'un de ces terrains qui est en dehors de notre sujet aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment en dehors, c'est l'Afrique du Sud post-apartheid, où Didier Fassin a travaillé sur la gestion politique et la gestion inégalitaire de la santé, de la maladie et de l'accès aux soins de santé, l'autre terrain, évidemment, étant le terrain hexagonal. Alors, dans une bibliographie qui est naturellement très riche, j'indiquerai simplement trois titres, puisque les présidents qui m'ont précédé ont indiqué trois titres pour les intervenants. Donc, il y a un ouvrage intitulé « Les inégalités sociales de santé, un dossier à rouvrir », un autre « L'immigration n'est plus ce qu'elle était », et un troisième « Sida, immigration et inégalité, nouvelles réalités, nouveaux enjeux ». Le dernier de ces ouvrages date de 2002, les deux autres sont de 2004. Didier, c'est à toi.
Merci. Le cycle de rencontres qui nous rassemble ce soir a été suscité par des événements, on vient de le rappeler, ce qu'on a appelé des émeutes urbaines ou la révolte des banlieues. Et je crois que ce fait mérite en soi notre attention. Il n'est pas si fréquent que les sciences sociales, institutionnellement et professionnellement, réagissent à un fait social qui prend une forme événementielle. Nous avons généralement une sorte de réticence à traiter de l'actualité que nous réservons plutôt aux journalistes, réclamant pour nous-mêmes la distance et la durée, distance du regard scientifique, durée de l'enquête ethnographique ou sociologique. L'anthropologie est à cet égard exemplaire, bien peu de travaux traitent d'événements, la description y prévaut sur la narration, le présent de l'intemporel et des régularités y est plus de mise que le passé simple du récit et des péripéties. Et quand bien même le temps fait l'objet de nos recherches, c'est celui du changement social, autrement dit de mutations profondes et de transformations structurelles, pas celui de l'événement que nous tendons à voir comme l'écume de ces bouleversements sociaux plus essentiels à notre analyse. Or, les faits qui se sont produits à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre 2005, et à travers l'importance que nous leur accordons ici et plus largement que leur accordent la société française et même le monde, car ils ont spectaculairement fait la une des médias partout sur la planète. Il y a bien donc, dans cette présentation, une forme de réhabilitation de l'événement, non plus comme une réalité accessoire qui serait abandonnée au traitement journalistique, mais comme une réalité cruciale, en ce qu'elle nous révèle des phénomènes enfouis ou occultés, comme cette épreuve dont nous parlons lorsque nous disons ici que le modèle républicain est confronté aux discriminations qu'il nous faudra peut-être nous résoudre à qualifier de raciales. Mais qu'est-ce qu'un événement ? Pour le dire autrement, qu'est-ce qui fait événement dans les violences des cités dont nous avons été les témoins ? Il nous faut ici résister à la fascination des images, de bâtiments en flammes, de voitures calcinées, de jeunes cagoulés, de policiers casqués, qui en ont constitué l'essentiel de l'iconographie. Pour ma part, circulant le soir en Seine-Saint-Denis et sortant la nuit avec une brigade anticriminalité du Val-d'Oise pendant les émeutes, ces deux départements ayant été ceux où les statistiques de dégradation étaient les plus fortes au niveau national, je ne pouvais que constater le contraste entre ce que certains commentateurs, je pense par exemple à Jean-Claude Casanova, qualifiaient de guerre civile et ce que je voyais, à savoir un calme relativement ordinaire de la banlieue, traversée par ce qui apparaissait le plus souvent comme des incendies sporadiques, dont les auteurs avaient pratiquement toujours disparu lorsque la police arrivait sur les lieux, et qui ne donnaient lieu que, exceptionnellement, à des affrontements, généralement sous la forme de ce qu'on appelle des caillassages de véhicules. Répondant à l'une de mes questions sur les violences observées dans son district, le commissaire principal de l'un des supposés points chauds de la cartographie des émeutes que les médias montraient quotidiennement me retourna la question. De quelle violence parlez-vous ? Si c'est de véhicules brûlés, nous en avons eu effectivement un peu plus que d'habitude. Si vous parlez en revanche d'affrontements, il ne s'est pratiquement rien passé. Ce que me confirment aujourd'hui les policiers de la brigade anticriminalité, qui sont bien entendu, de par leur mission, les premiers sur le front de ces violences. Il nous faut donc aussi nous interroger sur la production médiatique et politique de l'événement, et bien sûr sur ses effets, en termes de construction des peurs et plus largement de représentation du monde social et de rapport à l'autre intérieur, l'autre proche et lointain à la fois, familier et dangereux. Pour en revenir à la question initiale, ce qui fait l'événement, ce n'est peut-être pas le nombre de voitures brûlées et de policiers blessés, qui bien sûr en font partie. Ce qui fait événement, c'est qu'il sépare deux états du monde social, entre un avant et un après. Si les émeutes urbaines d'octobre-novembre constituent un événement, c'est que nous ne voyons plus tout à fait la société française de la même façon, ou que la société française elle-même ne se voit plus tout à fait de la même manière. Au cœur de ce changement de regard et de cette nouvelle réflexivité, la question des discriminations raciales, en quelque sorte consacrée par le discours solennel du président de la République, qui en a fait l'essentiel de la matière de son unique intervention télévisée, mais qui a donné lieu à de multiples enquêtes de journalistes et à des exercices nombreux d'introspection. Bien sûr, on avait commencé à parler de discrimination et à s'en préoccuper plus tôt. Il y avait eu des travaux de sociologues, Philippe Bataille et l'équipe de Véronique de Ruder sur l'emploi, Agnès Van Zanten sur l'école, Patrick Simon sur le logement. Il y avait eu des rapports officiels, à commencer par celui du Haut Conseil à l'intégration en 1998 et des mobilisations associatives, notamment celle du GISTI. Il y avait eu le GELD, le groupe d'études et de lutte contre les discriminations, auquel a succédé la HALD, la Haute Autorité pour la lutte contre la discrimination et pour l'égalité, les CODAC, les comités départementaux d'accès à la citoyenneté, qui sont devenus les COPEC, comités pour la promotion de l'égalité des chances, qui sont censés traiter les plaintes des personnes ayant subi des discriminations, le 114, numéro anonyme et gratuit où pouvaient être entendus les victimes et les témoins de discrimination raciale, la loi qui a déplacé la charge de la preuve en matière de discrimination de la victime vers l'auteur présumé, et la jurisprudence qui a fait droit à la discrimination indirecte, autrement dit, statistiquement établie et indépendamment de toute intentionnalité raciste. Certes, en moins d'une décennie, donc, nous étions passés d'un silence presque total à une reconnaissance officielle. Mais le sujet demeurait relativement confiné dans le milieu des sciences sociales et les cercles politico-administratifs. Ce que les livres des chercheurs et le travail des institutions peinaient à faire émerger, quelques incendies spectaculaires et quelques violences relativement contenues l'ont rendu visible au plus grand nombre. La question des discriminations raciales en tant qu'elle représente un défi au modèle républicain, est devenue un enjeu central dans l'espace public, et ceci, quoi que l'on en pense. Les émeutes des banlieues sont donc un événement au sens où elles établissent symboliquement un avant et un après de la société française contemporaine. Ce que la multiplication des commentaires et des analyses, dont la réunion de ce soir fait partie, vient aujourd'hui attester. La confrontation du modèle républicain et des discriminations raciales est donc désormais un lieu commun de notre langage. Les récentes violences n'en sont toutefois pas le seul élément explicatif. Il faudrait également tenir compte de la redécouverte de la question coloniale, autour en particulier de la loi de février 2005, de la réévaluation de l'histoire de la traite, de la revendication du mémoire de l'esclavage et de l'émergence d'une identité noire, tous éléments qui ont suscité une forte mobilisation d'acteurs et une intense polarisation des débats autour de ce qui est devenu ce lieu commun des relations ambiguës entre la République et son passé et son présent. À cet égard, il faudrait plutôt donc parler de configuration événementielle qui fait sens pour la société française aujourd'hui. Un lieu commun n'est cependant pas une vérité sociologique. Il nous faut donc le réinterroger avec nos outils, c'est-à-dire notamment à la lumière de nos enquêtes. Avant de le faire, je voudrais revenir une dernière fois sur l'événement lui-même. Les commentaires politiques et les analyses des sciences sociales ont pour la plupart mis en relation les émeutes et les inégalités dont sont victimes certains jeunes en termes d'emploi, de logement et plus globalement d'avenir. Autrement dit, on a volontiers établi un lien causal entre une situation socio-économique avérée et une manifestation violente de frustration. Cette explication me semble partiellement inexacte. Elle ne permet pas de rendre vraiment compte des faits qui se sont produits. Les émeutes ne résultent pas de manière déterministe d'une réalité du marché du travail et des rapports de production, comme l'avait analysé l'historien britannique E.P. Thompson à propos des émeutes de paysans anglais au XVIIIe siècle. Plus qu'une affaire d'économie politique, c'est une affaire d'économie morale qui est en cause. Comme dans toutes les émeutes urbaines au cours du dernier quart de siècle en France, la violence est consécutive à la mort d'adolescents ou de jeunes dans le cadre d'interactions avec la police, c'est-à-dire de poursuites ou de brutalité. Comme les paysans anglais du XVIIIe siècle, les jeunes Français des quartiers dits en difficulté ont appris à tolérer un certain degré de discrimination, d'exploitation, d'humiliation. Mais c'est la rupture de ce fragile équilibre des valeurs qui génère la violence. Quand il y a mort de l'un, ou dans le cas présent, de plusieurs, de deux, des leurs, a fortiori lorsqu'il s'agit de jeunes qui, en l'occurrence, n'avaient commis aucun délit, a fortiori lorsque les autorités salissent leur mémoire en les qualifiant de délinquants, a fortiori enfin lorsque le deuil de la famille et des proches n'est pas reconnu, c'est alors que l'exaspération se produit parce qu'on est allé trop loin. Ce qui est intolérable, c'est moins l'inégalité sociale ou la discrimination raciale, qu'en l'occurrence la dévalorisation des vies et la disqualification des morts qui en sont, il est vrai, l'aboutissement. C'est le déni radical de justice poussé à son extrême, le non-respect des règles du jeu, même inégales, qui constitue le facteur déclenchant des violences d'aujourd'hui comme hier. Il est important de l'analyser, sinon on ne comprend pas pourquoi, si l'économie politique était seule en cause, pourquoi il n'y aurait pas une situation de guerre civile permanente. Sinon, on ne comprend pas non plus que la question centrale que posent ces événements, c'est celle de l'État, en tant qu'il est le détenteur du monopole de la violence légitime, et que dans ces quartiers, ils se mettent à user d'une violence illégitime de manière ordinaire. Les policiers et leurs supérieurs, lorsqu'on les interroge, justifient souvent l'usage de la force comme une nécessité au regard de la perte d'autorité généralisée, celle des parents, celle des maîtres, celle des institutions, celle de la police elle-même. Il faut assurément inverser cette relation causale. C'est l'usage injustifié et disproportionné de la force, à la fois brutalité physique et violence symbolique, qui sape l'autorité de l'État et de ses institutions, puisqu'elle est précisément, cette autorité, ce qui s'impose de soi sans recours à la force. Dans un procès pour violence policière auquel j'assistais l'an dernier, violence à l'encontre de deux hommes, l'un turc, l'autre antillais, l'un et l'autre sans lien avec l'affaire pour laquelle une trentaine de policiers étaient intervenus, les accusés, c'est-à-dire les policiers, rapportèrent à l'audience qu'au moment de lancer leur expédition punitive dans cette cité, le brigadier les avait galvanisés en leur disant « Nous avons perdu la guerre d'Algérie, nous n'avons pas recommencé, cette fois pas de prisonniers ». On voit combien, dans une scène comme celle-ci, l'autorité de l'État se trouve mise à mal et combien, aussi, le passé colonial sous-tend ces discriminations raciales. C'est donc bien la relation concrète à l'État qui est au principe des émeutes urbaines récentes, mais une fois dit cela, il nous faut bien revenir aussi à ce qui rend possible de tels faits. Si le rapport à la force publique constitue le facteur de déclenchement, il faut nous interroger maintenant sur ce qu'en sont les conditions de possibilité. Et c'est ici que la question des discriminations raciales nous oblige à penser à nouveau frais les questions plus anciennes posées aux sciences sociales par les disparités économiques et la ségrégation résidentielle, à la classe et au quartier comme éléments structurants des inégalités, qu'étudient entre autres Stéphane Beau et Michel Pialoux. Il faut désormais ajouter l'assignation ethnico-raciale. Donner une lecture ethnico-raciale des émeutes récentes n'est assurément pas sans poser de problème, puisque c'est précisément la manière dont les événements ont été qualifiés, et donc disqualifiés, par certains commentateurs, comme Alain Finkielkraut, qui parlent de pogroms antirépublicains de la part de jeunes noirs et arabes. Mon propos est tout autre, vous l'aurez compris. Il n'est pas de dire que la révolte est ethnico-raciale, mais bien au contraire qu'elle est une protestation contre l'assignation ethnico-raciale à laquelle sont soumises certaines populations et les discriminations qui en découlent. Comme d'autres l'ont dit, Emmanuel Todd, entre autres, pour rester dans le registre des intellectuels non spécifiques, elle est donc une protestation républicaine. La discrimination offre ici un outil conceptuel et juridique, bien sûr, pour penser une réalité ancienne sur laquelle on ne mettait pas de nom, mais qui existait bel et bien. On peut rappeler qu'on appelle discrimination un traitement défavorable qui est lié à l'usage d'un critère illégitime, ici, en fonction de l'origine de la personne, de sa couleur de peau, de la consonance de son patronyme, de sa religion supposée. Il est essentiel de comprendre que la discrimination, qui est une rupture de l'égalité de droit entre les personnes, n'est pas le racisme. Si les deux sont volontiers associés, il existe un racisme sans discrimination, celui de l'employeur qui a des préjugés à l'encontre des Africains, mais qui les embauche car il apprécie leur courage et leur docilité. De même qu'il existe des discriminations sans racisme, celle de l'artisan qui ne recrute pas un apprenti arabe par peur de la réaction de ses clients. Les agences pour l'emploi ont appris à décoder ces formes multiples d'associations entre discrimination et racisme dans les offres que leur adressent les employeurs, comme l'a montré notamment le sociologue Olivier Noël. Pour les uns, il faut des BBR, bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire pas des personnes de couleur. Pour les autres, il faut au contraire des CLD, crève la dalle, c'est-à-dire des personnes corvéables à merci, sous-entendu de préférence des pays du Sud. Les discriminations raciales, je le disais, ne sont certes pas nouvelles. Les immigrés et les étrangers en ont été victimes tout au long du XXe siècle, et souvent ils ont fait avec, ayant plus ou moins intériorisé leur illégitimité. Le fait nouveau, me semble-t-il, est qu'elles concernent ces discriminations aujourd'hui massivement des Français nés en France qui ne comprennent pas qu'on ne les traite pas comme le reste des Français nés en France, mais qui constatent que cette différence de traitement est liée à des préjugés communs sur une origine dans laquelle on les enferme. À cet égard, ceux de mes collègues historiens qui continuent de penser la situation actuelle en termes d'immigration et de la qualifier en termes de xénophobie n'ont peut-être pas réalisé encore ce changement essentiel et rejoignent ainsi, malgré eux, les responsables politiques qui, comme vous le savez, ont lié émeute et immigration. Bien sûr, la xénophobie demeure, mais en l'occurrence, les événements récents concernent pour l'essentiel des Français autochtones, si l'on peut dire, victimes de racisme et de discrimination. Comment comprendre alors la persistance, et peut-être l'aggravation, des discriminations raciales dans un pays qui s'est construit depuis deux siècles sur une idéologie un peu hâtivement qualifiée de républicaine, fondée sur un triple principe d'égalité, d'universalisme et d'assimilation, dont chaque élément du triptyque semble mis à mal par les discriminations raciales, en tant qu'elles sont une inégalité de fait, opposée à l'égalité de droit, une réduction identitaire niant l'universalisme, et une mise en échec du travail d'assimilation. Contrairement à ce qu'on en a longtemps pensé, il ne s'agit pas d'un accident de l'histoire, mais bien d'une contradiction qui a toujours été présente dans la République Il faudrait la saisir à travers l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler, non plus, plutôt qu'une politique de l'immigration qui renverrait à des enjeux de citoyenneté, une politique de l'altérité qui est constitutive de la construction de la nation. Une politique que l'on pourrait suivre, et on le comprend mieux aujourd'hui grâce au travail des historiens et des anthropologues, jusque dans la période coloniale, avec cette rencontre insolite entre la République française et ses indigènes, qu'elle s'efforça de traiter à la fois, selon la formule d'Hannah Arendt, en frères et en sujets, en les assimilant tout en les distinguant. Aujourd'hui, la dialectique de l'intégration et de la discrimination est assurément un héritage de cette histoire jusqu'au cœur de l'État lui-même. Dans les cérémonies de naturalisation qui ont été instituées pour donner plus de solennité et parfois plus de chaleur à l'acte de remise de leur décret aux personnes qui obtiennent la nationalité française, le représentant de l'État, généralement un sous-préfet, opère ce double geste par lequel, d'un côté, il prononce leur entrée dans la communauté nationale, ce que vient remémorer un diaporama sur l'histoire et les valeurs de la France, et de l'autre, il leur rappelle dans son discours qu'ils sont différents, pas tout à fait égaux, suspects de ne pas respecter les valeurs républicaines, en insistant sur tout le travail qu'ils vont désormais devoir accomplir sur eux-mêmes afin de devenir dignes de ce qu'ils qualifient, je cite, de faveur que vous accorde la République. On sait que l'invocation de ce modèle républicain a été le principal frein à la reconnaissance de l'existence des discriminations raciales jusqu'à la fin des années 90. Les nommer et les mesurer, c'était par une sorte de performativité du discours les faire exister dans l'espace public et de surcroît stigmatiser davantage celles et ceux qui en étaient les victimes. Mieux valait donc les taire et œuvrer discrètement à une meilleure intégration de celles et ceux que l'on continuait à voir comme des étrangers quand ils étaient souvent français ou comme des immigrés quand ils étaient généralement nés en France. Moins on en parlait, mieux les choses se passaient. Et la dénégation des discriminations raciales par celles et ceux qui en étaient les auteurs ou les observateurs pouvait même trouver un écho dans le déni des victimes elles-mêmes qui préféraient se faire oublier. C'est cet arrière-fond d'occultation, sous prétexte de bienveillance chez les uns et de silence empreint de culpabilité chez les autres, qui est encore à l'œuvre aujourd'hui dans ce double mouvement par lequel ceux-là même qui sont chargés de lutter contre les discriminations, dans les préfectures ou dans les communes, dans les entreprises et dans les tribunaux, ne sont souvent pas totalement convaincus du bien fondé de leur action. Comment comprendre donc aujourd'hui encore ce déni au moment même de la reconnaissance de ce phénomène? Je distinguerai trois niveaux d'explication. Première explication, il est difficile à beaucoup de nommer ce qu'ils constatent et même ceux dont ils parlent. On hésite à dire discrimination, on répugne à les qualifier de racistes, de raciales, pardon. Certains les qualifient de racistes. On mélange souvent étrangers, immigrés et français nés en France, que par manque de mots, on désigne alors comme issus de l'immigration. On dit jeunes, comme ces employeurs qui déclarent qu'ils n'en veulent plus dans leur entreprise pour ne pas dire personne de couleur. On dit maghrébins, comme lors des émeutes de Perpignan il y a quelques mois, pour nommer des Français d'origine maghrébine. On se souvient même du président de la République, dénonçant avec vigueur le 14 juillet 2004 les actes racistes et antisémites, ajoutant « Trop de juifs, de musulmans et même de français sont victimes d'intolérables violences ». Les mots trahissent ainsi nos difficultés à penser ces situations. Il y a une urgente nécessité à clarifier notre langage, c'est-à-dire aussi à clarifier notre pensée. Deuxième explication, beaucoup méconnaissent la réalité de ce que sont les discriminations raciales et l'arsenal dont ils disposent pour les combattre, alors même qu'ils entrent dans leur mission de lutter contre ce type d'inégalité. Très souvent, on les réduit aux seuls actes ou paroles explicitement racistes, et l'on considère alors comme étant hors champ la plupart des discriminations de situations de discrimination de fait, qu'elles soient directes ou indirectes. Nombre de faits que les acteurs nous décrivent et qu'ils ne voient pas comme relevant réellement des discriminations s'inscrivent pourtant dans la définition, notamment juridique, qui en est donnée. Mais quand bien même on les reconnaît pour ce qu'elles sont, on ignore souvent les instruments disponibles pour les combattre. Le constat en avait été fait il y a quelque temps par la mission d'inspection de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales et de l'IGS, l'inspection générale des services, les référents des CODAC, pourtant clés de voûte de la politique, connaissaient souvent très mal les dispositifs institutionnels et les dispositions législatives. Dès lors, le recours au droit par des procédures pénales ou civiles, ou même dans le cadre de négociations avec les producteurs de discrimination pour en obtenir une forme de réparation à l'égard des victimes, est rarement utilisé. En fait, le renoncement à recourir au droit, qui est la forme la plus ordinaire de traitement des plaintes et des signalements pour discrimination, est lié à la fois à une méconnaissance de ce droit, mais peut-être plus encore, chez ceux qui le connaissent, à son évitement. On préfère ne plus adresser certains jeunes à certains employeurs plutôt que de dénoncer leurs pratiques, et ceci dans l'intérêt des jeunes eux-mêmes, pense-t-on. On préfère ne pas utiliser dans un prétoire l'argument du caractère raciste d'une violence parce qu'on sait que les juges risquent de ne pas suivre. Ainsi se prive-t-on souvent du droit parce qu'on ne croit pas complètement à sa force ni à ses effets, en tout cas à court terme. Troisième et dernière explication, beaucoup ne sont pas entièrement convaincus de la réalité des discriminations. Bien entendu, ils sont prêts à admettre dans ces formes extrêmes, les plus brutales, les plus explicites. Mais ils considèrent aussi souvent que les personnes qui se disent victimes ont tendance à tomber dans la victimisation ou à l'inverse, ils justifient ceux qui produisent des discriminations parce qu'ils ont, expliquent-ils, de bonnes raisons de le faire. Une responsable de mission locale qui est quotidiennement confrontée à des jeunes dont l'expérience quotidienne est celle du refus d'embauche explique ainsi « Toute la difficulté, c'est de ne pas les conforter dans leur paranoïa parce que certains sont persuadés que le patron a pour essence d'être raciste. » Un référent de Kodak, à l'époque, évoque, lui, les pratiques des employeurs qui rejettent les CV de personnes d'origine maghrébine et plus largement africaine. Le plus souvent, dit-il, ce ne sont pas des racistes au sens premier du terme, ce sont des gens qui sont xénophobes parce qu'ils perdraient des clients s'ils ne l'étaient pas. La disqualification des victimes au nom de la victimisation et la justification des discriminations au nom de leur rationalité constituent ainsi deux éléments importants de normalisation de ces pratiques. Je ne discuterai pas le second élément, la rationalité, pour lequel tout un courant de travaux économiques apporte d'utiles lumières. Je soulignerai simplement à propos du premier, la victimisation, que rien ne permet de penser que la reconnaissance récente des discriminations raciales dans l'espace public français a suscité des vocations victimaires. Bien au contraire, la plupart de celles et ceux qui font l'objet de cette forme d'inégalité ne s'en plaignent guère, notamment parce que le coût symbolique qu'il y aurait à s'admettre discriminé pour ce qu'on est apparaît à beaucoup trop élevé. Avant donc de s'inquiéter du risque de victimisation, il faut certainement s'attacher à répondre aux victimes par l'écoute et surtout par le droit, c'est-à-dire par une véritable politique de reconnaissance. Les analystes, parmi lesquels les chercheurs en sciences sociales, sont du reste même partie prenante de ces logiques du déni, notamment lorsqu'ils rendent compte des phénomènes et des politiques pour les combattre. Il nous faut certainement être attentifs à une rhétorique très riche qui vise moins, au bout du compte, à justifier de ne rien faire qu'à faire entendre les risques qu'il y aurait à entreprendre quelque chose. De ce qu'il appelait une rhétorique réactionnaire, Albert Hirschman a décrit trois modalités principales qu'il a étudiées à propos de la résistance des conservateurs à l'extension des droits civils, politiques et sociaux depuis le XVIIIe siècle, mais qu'il serait aisé de reprendre à propos des réticences à la mise en œuvre d'une politique de lutte contre les discriminations dans les sociétés contemporaines. Le mot réactionnaire ne doit pas ici être entendu simplement comme un positionnement sur le spectre classique droite-gauche de la représentation politique, mais plutôt comme une posture de réaction à ce qui change. Les trois arguments sont souvent d'autant plus efficaces qu'ils sont présentés comme étant précisément au bénéfice de ceux qu'ils démolissent. La thèse de l'effet pervers consiste à dire que la politique conduite risque fort de produire des résultats qui seront contraires à ce que l'on recherche. La thèse de l'effort vain affirme que ce que l'on entreprend n'aura que des conséquences minimes et superficielles, voire nulles, au regard du caractère structurel des problèmes en cause. La thèse du jeu dangereux suggère que l'action voulue, même si elle est désirable, induira des changements bien plus graves que ceux à quoi on s'attaque. Ces trois modalités décrivent des formes rhétoriques en quelque sorte pures. Bien souvent, les argumentaires s'inscrivent dans des discours hybrides qui mêlent les trois et d'autres encore. Sans vouloir anticiper la discussion que Dominique Schnapper fera dans un instant, et sans vouloir l'enserrer non plus dans cette critique rhétorique que je vous livre, On pourrait relire les arguments opposés à la discrimination positive en fonction de cette typologie. Elle a des effets pervers, car elle contraint à catégoriser les personnes en reprenant les critères que l'on veut combattre. Elle est un effort vain au regard des problèmes du chômage, du logement, des revenus, qui sont les vrais enjeux. Elle est un jeu dangereux, car elle produira des individus disqualifiés par le simple fait d'avoir été choisis selon ces critères. À ce triptyque rhétorique, il faudrait bien sûr ajouter un quatrième élément spécifique au contexte français, l'épouvantail de la société américaine et de son communautarisme. Loin de moi l'idée de vouloir faire de la discrimination positive, ou plutôt des actions visant à rétablir une égalité de fait, la solution pour combattre les discriminations raciales, encore que l'on pourrait penser que dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, elle aurait quelques effets bénéfiques. Sans en méconnaître les contradictions et les difficultés, je crois qu'elle est un instrument, parmi d'autres, qui a une valeur symbolique forte et qui aurait un probable effet de dévoilement de nos pratiques et d'entraînement de nos réformes. Mais il est vrai que dans les banlieues où je travaille et où je vis, pour les adolescents et les jeunes auprès desquels j'enquête et qui sont tout simplement les amis de mes enfants, je sais combien les discriminations raciales sont liées aux inégalités économiques et aux ségrégations résidentielles, combien les trois phénomènes pour être combattus relèveraient de véritables politiques de justice sociale dont nous ne constatons pas même le début aujourd'hui. Il nous faut cesser de penser comme incompatibles les deux modèles qui fondent la justice, celui de l'inégalité qui appelle la redistribution et celui de l'altérité qui appelle la reconnaissance. Beaucoup de commentateurs ont parlé, à propos des émeutes récentes, de révolte sans voix, de violence sans discours politique. Il me semble tout au contraire que quelque chose a été dit de notre société et que beaucoup l'ont entendu. Moment rare, assurément, dans une époque marquée par l'anesthésie politique. Ne laissons donc pas retomber ce moment précieux où le monde social nous devient un peu plus intelligible et où l'intolérable de certaines inégalités commence à nous affecter.
Bon, je vais sans tarder passer la parole au deuxième intervenant, Dominique Schnapper, qui est directrice d'études à l'école et qui aussi a une bibliographie très longue dans laquelle les enquêtes de terrain, de sociologie, alternent avec des travaux de caractère plus théorique. Donc je ne serais pas tout à fait égal en donnant pour elle aussi trois titres, je vais en donner quatre, parce que je crois que ça reflète mieux une sorte de discrimination positive, en effet, ce qu'elle fait et sa pensée. Il y a un premier ouvrage qui a une dizaine d'années déjà, et qui s'appelait « La France de l'intégration, sociologie de la nation », 95. 15 ans déjà, ok. Deux autres qui me semblent aller un peu ensemble, « Qu'est-ce que la citoyenneté ? Questionner le racisme ?» Et puis un dernier, « La démocratie providentielle, essai sur l'égalité contemporaine. » Donc Dominique, c'est à vous.
Bon, c'est difficile de parler après Didier. Je voudrais, mon propos prend la suite du sien, directement la suite. Il y a beaucoup de choses qu'il a avancées auxquelles j'aurais aimé réagir, mais je pense que la discussion nous en donneront l'occasion. Et je voudrais reprendre le propos là où il l'a laissé, c'est-à-dire à propos de la discrimination positive. Alors, il m'a tendu la perche en annonçant que j'allais faire de la rhétorique réactionnaire et je vais essayer d'échapper, autant que faire se peut, à la rhétorique réactionnaire, c'est-à-dire à ne pas vous donner une position pour ou contre la discrimination positive, ce qui en tant que tel n'est pas très intéressant pour vous, mais d'essayer de vous montrer les contradictions d'une politique de discrimination positive, pourquoi nous en faisons, en disant que nous n'en faisons pas, et enfin d'essayer de préciser la manière dont on peut les utiliser pour avoir une politique en vue d'une égalité réelle, qui me paraît le problème essentiel des démocraties. Alors d'abord, juste une toute petite réflexion en passant. Les Français parlent de discrimination positive pour traduire ce que les Américains, enfin les anglophones, ont appelé affirmative action, ce qui évidemment devrait donner l'action positive. Et discrimination positive est en tant que telle contradictoire dans les termes, puisque discrimination, comme vous savez, ça veut dire distinguer, et à l'origine ça avait un sens neutre, c'était même l'activité première de l'esprit qui consiste à faire des distinctions. Progressivement, parce que nous sommes dans des sociétés démocratiques habitées par la passion de l'égalité, la discrimination a pris un sens péjoratif, c'est-à-dire qu'elle a pris le sens d'une distinction fondée sur un critère illégitime. Et c'est symptomatique, disons, de notre goût pour l'égalité. Et à partir du moment où on donne ce sens négatif à discrimination, on voit bien que traduire affirmative action par discrimination positive était une révolte de ceux qu'on appelle des républicains obtus, dans lequel on me compte quelquefois, on n'a pas raison. Bien. Et comme la discrimination positive est donc marquée, là je suis tout à fait Didier dans les jeux du vocabulaire autour de ces problèmes difficiles, parce que c'est des problèmes assez fondateurs de notre ordre social, alors on parle des qualités des chances ou bien on parle de diversité. Et quelquefois, on disait la même chose. Alors, s'il y a ce problème de la discrimination positive, s'il y a ces problèmes des mots qu'on pose, qu'on utilise, qu'on contourne, c'est parce que je crois qu'il existe un problème de fond et qu'il révèle une tension fondamentale de la démocratie elle-même, en dehors des bonnes intentions ou de la plupart des démocrates. Et je voudrais essayer de vous montrer, en commençant donc par les apories de la discrimination positive. Alors, dans la modernité politique qui est née en 89 et qui est toujours en vigueur, selon ces principes de la liberté politique, il y a un problème de cohérence ou de concordance avec l'idée de discrimination positive. Et je vous rappelle un des textes fondateurs à partir duquel ce problème de la discrimination positive se pose, et se pose d'une façon contradictoire. Les hommes naissent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, mais peut-être plus directement important, du point de vue juridique, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Et le préambule de la Constitution de 1946 reprend que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaltérables et inaliénables et sacrés, et que la loi garantit l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'est le préambule de 1946. Alors, c'est sur ces textes que sont fondés tous les mécanismes de recrutement à toutes les places, à toute dignité, place et emploi public. Ces textes, et en particulier, donc, fondent cette idée d'égalité devant les places publiques. Donc, dans ce qui a été fondé en 89, on ne compte pas ni les Français, ni les Juifs, ni les Africains, ni les pauvres, ni les femmes. La logique de cette affirmation, c'est évidemment la suppression de tout quota et de tout poste réservé à telle ou telle catégorie de la population. Et il faut voir clairement que les principes de... Enfin, une politique de discrimination positive impliquant la représentation de telle ou telle catégorie de la population dans telle ou telle institution est contraire aux textes qui nous font vivre, et nous sommes dans un état de droit, et aux textes fondateurs de la citoyenneté, par-delà les textes, par-delà la Constitution et par-delà les textes de droit, mais qui ne sont pas négligeables, sur les principes fondateurs de la citoyenneté, à savoir la liberté, l'égalité de tous les individus. Mais, et j'insiste tout de suite parce que nous arrivons au centre de l'aporie, c'est une égalité civile, politique et juridique, ce n'est pas une égalité de fait. Donc 89 et les principes sur lesquels nous vivons posent ce que les philosophes appellent les droits-libertés, puisqu'il introduit et que toute politique de discrimination positive serait contraire à ces droits-libertés, puisqu'il s'agit d'introduire un principe d'inégalité entre les individus et qu'on qualifie un individu par cette caractéristique au lieu de le prendre dans son caractère universel. Bien, alors nous savons que ce sont les principes. Notre président a évidemment rappelé que les principes républicains sont très largement un imaginaire, mais enfin l'imaginaire c'est une vérité aussi, et qu'il faut voir les pratiques, et je dirais que jamais, à aucun moment, la République n'a été totalement fidèle aux principes qu'elle a affirmés. Ce n'est pas pour autant dire que les principes sont sans importance, puisqu'ils sont tout de même le moyen invoqué et les textes en fonction desquels on peut lutter pour que les sociétés démocratiques soient moins infidèles aux valeurs dont elles se réclament que ce que nous pouvons observer. Et donc, de la tradition française, qui se réfère plus particulièrement à ces textes de 89, a, jusqu'à une date récente, considéré que des mesures de discrimination positive en faveur de telle ou telle catégorie de la population étaient contraires à la République politique telle qu'elle avait été construite. J'en viens donc au deuxième point qui veut souligner, et Didier en a déjà beaucoup parlé, depuis une dizaine d'années, moi je vois je ne sais pas s'il est d'accord avec cette date historique, il me semble que c'est 98-99 qui est un moment de changement dans la politique française, qui a pris une série de dispositions qui, dans un autre pays, seraient appelées des dispositions de discrimination positive, mais qui en France sont appelées autrement. Parce que ça ne fait justement pas partie de la tradition. Alors, bien sûr, ces dispositions n'ont généralement pas été prises dans leur majorité pour des catégories définies par leur origine historique ou par leur origine religieuse, qui serait contraire à la tradition. Elles ont été prises sous des critères sociaux ou des critères territoriaux. Alors, vous en avez entendu parler, et tout à l'heure, Didier en a parlé. C'est l'ensemble des politiques qui ont été prises à l'intérieur de l'école, avec les ZEP, les différentes politiques de la ville. J'avais été très frappée par le fait que Chevènement, qui est le ministre républicain par excellence, avait dit en 1999, dans un discours aux préfets, les préfets qui sont les agents du jacobinisme le plus traditionnel, qu'il fallait désormais que la police soit à l'image de la population, ce qui est une inspiration d'ordre de discrimination positive, puisque bien évidemment, selon l'universel républicain, aucune institution n'est à l'image de la population, ou ne doit être à l'image de la population, même si elle se trouve par hasard, mais elle n'a pas comme norme d'être à l'image de la population. Alors, dire en 99, il faut que la police soit à l'image de la population, et créer un certain nombre d'organismes dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient des organismes qui reconnaissaient le fait des discriminations dont certains groupes étaient victimes. Cette reconnaissance même était une transformation. Alors, je ne viens pas sur la description de la population, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que une tradition qui s'était imposée depuis si longtemps, qui était si ancienne, a en fait été très profondément modifiée? Alors, il me semble qu'on touche là à vraiment une des tensions inhérentes à la société démocratique. Elle affirme l'égalité formelle, ce que nos amis marxistes ont longtemps appelé, mais on peut les suivre sur ce plan-là, ont appelé l'égalité formelle. Et en même temps, nous savons que dans l'ordre économique et social et dans l'ordre de la vie commune, il y a beaucoup d'inégalités. Et il y a là une série de tensions qu'on avait compris cette tension dès 93. Je vous lis trois lignes de Rabaut de Saint-Étienne qui disait « Rien ne caractérise mieux la démocratie que la tendance à l'égalité et que les passions et même les violences pour l'opérer. L'égalité politique établie, les pauvres sentent bientôt qu'elle est affaiblie par l'inégalité des fortunes et comme égalité c'est indépendance, ils s'indignent et s'aigrissent contre les hommes desquels ils dépendent par leurs besoins, ils demandent les qualités des fortunes. » Et donc, l'égalité réelle, que ce soit celle des fortunes ou celle du traitement quotidien des personnes, est au cœur d'une société qui proclame l'égalité civile, juridique et politique de tous ses membres, et qui n'assure pas, et probablement ne peut pas assurer, la véritable égalité, celle qui serait l'égalité de fait. Et c'est, je crois, ce à quoi nous assistons dans la démocratie providentielle en ce moment. C'est l'effort pour assurer le véritable bien-être de tous ses membres, avec le développement de la protection sociale, de l'éducation, et jusqu'à un certain point, la reconnaissance des spécificités culturelles qu'on peut appeler ethniques, sur l'argument qu'on est vraiment égaux, que si la culture à laquelle on se réfère est reconnue comme celle de la culture de la majorité. Et donc, il me semble que le scandale des discriminations positives, le scandale des discriminations tout court auxquelles voudrait répondre une politique de discrimination positive, s'inscrit dans ce mouvement démocratique, et que c'est la force de ce mouvement démocratique et cette exigence d'une égalité réelle qui fait que, sans le dire, on a pris une série de mesures qui vont dans le sens qu'on appelle de discrimination positive. Alors, je voudrais dire que en France, du fait qu'il y a cette idéologie, et je prends idéologie dans un sens non critique, cette manière de nous raconter notre propre histoire commune, on a pris un autre vocabulaire. Les ZEP sont fondés sur des critères sociaux dans lesquels un des éléments, c'est l'origine étrangère, mais ce n'est qu'un des éléments, et le plus grand nombre des éléments pris en compte sont des critères sociaux, c'est-à-dire des critères universalistes et non pas ethniques ou religieux. Et là encore, les textes de droit empêchent de prendre en compte dans la politique publique les critères ethniques et religieux. Et donc, on prend des critères sociaux, la pauvreté, les handicaps sociaux ou physiques, et on refuse de prendre en compte les critères ethniques ou religieux. Mais nous savons tous qu'il y a souvent confusion entre certaines régions, puisque c'est par territoire, et certaines origines. Mais je pense tout de même que c'est très important de désigner par des critères généraux, parce qu'après tout, on n'échappe pas vraiment à son origine, et on peut cesser d'être pauvre, et on peut certainement cesser d'habiter certains territoires. Et donc, dans la démocratie, nous savons que les mots dans la démocratie sont extrêmement importants, faire de la discrimination positive au nom de critères non ethniques ou non religieux ne me paraît pas totalement dépourvu de sens et en fait plutôt sage. Reste le problème de savoir si la trahison des démocraties est une trahison de fait ou de fond, si je puis dire. C'est-à-dire, est-ce que ce sont de bons principes qui sont mal appliqués et dans ce cas-là, nous sommes fondés pour combattre pour qu'ils soient mieux appliqués? Ou bien est-ce que, par définition ou fondamentalement, ils sont inapplicables et nous devons avoir une critique radicale? Et la littérature américaine s'est divisée sur cette question à propos du racisme qui a frappé les Afro-Américains. Est-ce que c'était simplement la République américaine qui n'était pas fidèle à ses propres valeurs et la lutte pour que, en invoquant ces valeurs mêmes, permettait d'obtenir des résultats, ou bien, et c'est les penseurs radicaux des Black Studies, il n'y avait aucun moyen, disons, de récupérer la démocratie américaine parce qu'elle s'était fondée, justement, sur le racisme. Je laisse ça à votre discussion et à votre expérience à tous. Alors, nous, dans cette histoire que j'évoque très, très, très rapidement, je voudrais dire quelques mots sur les difficultés, les contradictions, et là, j'espère ne pas tomber sous la critique préventive qu'avait faite Didier, des difficultés d'une véritable politique de discrimination, enfin, d'action positive, disons. Le problème, c'est la difficulté de la... Enfin, un des problèmes, c'est la difficulté de l'application. Comme nous savons intuitivement que toutes choses égales d'ailleurs. Certains, à cause de leur origine, de leur nom ou de le lieu de leur habitation, ne sont pas pris pour avoir un emploi ou pour avoir un logement. Mais comment le mesurer alors que toutes choses égales par ailleurs, bien, les choses ne sont jamais égales. C'est-à-dire que les gens sont tout de même tous différents les uns des autres. Et il y a une série de phénomènes compliqués qu'on a évoqués d'ailleurs tout à l'heure entre ceux qui spontanément n'en veulent pas, ceux qui pensent que les autres n'en voudront pas et ceux qui ont une antipathie personnelle pour telle ou telle personne. Et donc la mesure de la discrimination est aussi difficile que semble facile la constatation ou l'expérience que nous croyons avoir des discriminations. Alors, tant qu'on est dans des politiques non cristallisées ou non institutionnalisées, on voit comment on peut lutter. Il y a des procédés comme le testing qui ont donné des résultats très efficaces en Angleterre et qu'on commence à mettre au point ici. On discute, comme vous savez, le CV anonyme. Enfin, bon. Mais il faut bien voir que c'est devant des tribunaux, et c'est toujours comme ça que ça finit par arriver, il est très difficile de mesurer ce qui nous paraît évident à observer. Et puis, il y a des effets pervers possibles. Le premier étant que la discrimination positive, des mesures de discrimination positive, par définition, concernent des catégories de personnes et que l'effort pour reconnaître des catégories de personnes fait que l'égalité du groupe est contradictoire avec l'égalité des individus. C'est un des problèmes que la Cour suprême a eu à gérer aux États-Unis quand, en entrant dans une université, on prenait des personnes qui avaient des notes inférieures à d'autres parce qu'ils appartenaient à un groupe qui avait été historiquement incontestablement victime de discrimination, de sorte que ceux qui avaient une note supérieure mais qui appartenaient à un groupe qui n'avait pas connu les mêmes discriminations avaient un sentiment, non seulement un sentiment d'injustice, mais surtout déclaraient que c'était contraire à l'égalité des individus, principe fondateur. Donc c'est un problème de voir le poids, disons, de l'égalité d'un groupe par rapport à l'égalité des personnes. Il ne faut pas penser que c'est spontanément cohérent, c'est en contradiction. Alors on peut tout à fait penser qu'à certaines époques, il y a des raisons de revenir sur l'égalité individuelle pour obtenir l'égalité réelle. Ça peut être une décision politique qui peut avoir ses justifications, mais il ne faut pas penser qu'on fait coexister des principes qui sont en tant que tels contradictoires. Le deuxième effet pervers possible, c'est évidemment la fausse intégration, c'est-à-dire l'intégration dans des universités de personnes qui sont recrutées sur des critères moins élevés que les autres, qui le savent, les autres savent qu'ils le savent, les autres le savent aussi, et ils finissent par se retrouver dans les disciplines les plus modestes ou les plus spécialisées. Est-ce qu'on a une véritable intégration quand les Afro-Américains se retrouvent exclusivement dans des Black Studies Departments? Je pose la question. Je pense que la véritable intégration, c'est quand ils se retrouvent indifféremment dans tous les départements des universités, c'est-à-dire tout à fait indépendamment de leur origine. Et évidemment, le troisième effet pervers possible, c'est d'assigner l'individu à son groupe. À partir du moment où on donne des avantages sociaux parce qu'on appartient à un groupe, on renforce l'identité à ce groupe. Nous avons tous une grand-mère juive indienne que nous pouvons oublier, sinon à titre de grand-mère très sympathique, mais dont nous pouvons oublier l'origine. À partir du moment où cette origine vous donne des droits dans la société, vous avez tendance à renforcer l'identification à cette origine particulière. Et le fait de donner des droits en fonction de telle ou telle origine risque toujours d'assigner l'individu à son groupe et de lui donner une conscience de participation à un groupe particulier, plus grande que sa participation à la société globale. Alors, ces effets pervers possibles, n'implique pas que, étant donné que nous sommes dans cette société, dans cette dynamique démocratique et dans ce besoin des individus démocratiques d'atteindre autant que faire se peut, non pas seulement l'égalité formelle, mais l'égalité réelle, on peut, je crois, plaider, et je le plaiderai personnellement volontiers, pour une politique qui pourrait corriger la caricature qu'on fait volontiers du modèle républicain. Et je finirai là-dessus. D'abord, je pense que le combat pour l'égalité doit être mené en rappelant les valeurs communes, c'est-à-dire en forçant ceux qui tiennent pour le modèle républicain d'être fidèles à leurs propres valeurs, comme on peut réclamer à la société démocratique de ne pas trahir les valeurs auxquelles elle se réfère. Ensuite, parce que toutes les sociétés sont des héritières d'une histoire particulière, on a fait allusion tout à l'heure, il me semble que les populations héritent souvent des discriminations ou des situations de victimes qu'ils ont pu connaître dans le passé. Et je pense que dans la situation démocratique, prendre des mesures partielles et provisoires de correction est très souvent souhaitable, parce que leur valeur est sans doute plus symbolique, mais le symbole, c'est extrêmement important dans la vie collective. Et tenir compte dans la vie et dans les pratiques sociales des handicaps particuliers de tel ou tel groupe de population, pour raison sociale ou pour raison historique, me paraît souhaitable. J'ajoute que je crois que ça a toujours été plus ou moins fait, en tout cas dans le monde de l'enseignement, qui est celui que j'ai le mieux connu. Il me semble qu'on a toujours, dans les faits, essayé de tenir compte des situations particulières et sans faire de discrimination positive, d'avoir une façon d'aider particulièrement les uns ou les autres. Reste le problème de savoir s'il faut l'inscrire dans des institutions, c'est-à-dire prendre des dispositions juridiques pour des mesures de cette nature. Et là, je vois un petit peu le danger, parce que dans les sociétés providentielles, ce sont des sociétés de droits acquis. On ne remet pas en question les droits acquis. Et donc l'institutionnalisation de ces politiques risquerait de faire qu'au lieu d'être partielle et provisoire, à l'intérieur des principes universels, elle risquerait d'être établie une fois pour toutes. Et dans ce cas-là, je craindrais que les effets pervers que j'ai analysés deviennent prépondérants, c'est-à-dire qu'elles aient pour effet objectif de consacrer l'échec d'une promotion normale, l'échec de certaines populations qui seraient donc incapable de se mesurer aux autres, et donc de ne pas respecter la valeur essentielle de nos sociétés et des sociétés démocratiques, c'est-à-dire l'égale dignité de tous. Et donc je plaiderai pour des mesures qui sont dans l'ordre des pratiques et qui sont provisoires, qui supposent la conscience des handicaps des uns ou des autres, mais je craindrai d'inscrire dans des institutions qui se prolongent par définition que certains ont besoin de mesures particulières pour participer sur une base égalitaire à la vie collective. Merci.
Oui, la discussion est déjà engagée à cette table. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une contradiction absolument insurmontable, mais les deux orateurs auront peut-être à se répondre au cours de la discussion qui va s'ouvrir maintenant. Vous savez que nous devons impérativement libérer cette salle.